Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Une église en sortie jusqu'aux lointains confins demande une conversion missionnaire constante et permanente. La vie divine n'est pas un produit à vendre, nous ne faisons pas de prosélytisme. Chacun d'entre nous est une mission dans le monde parce qu'il est le fruit de l'amour de Dieu. Voilà quelques-unes des exhortations lancées par le pape François alors que va s'ouvrir début octobre un mois extraordinaire pour la mission. Une demande que le pape fait aux églises du monde entier afin d'entrer petit à petit en état permanent de mission, comme il aime à le dire par ailleurs. Un appel fort et consolant. Moi missionnaire, le pape François donne le cap, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Autour du plateau, pour nous en parler, Monseigneur Michel Dubost, vous êtes directeur des œuvres pontificales missionnaires, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être présent à cette antenne, d'avoir pris le temps. Vous êtes par ailleurs administrateur apostolique du diocèse de Lyon. Samuel Pruvot nous rejoindra un petit peu plus tard. Il est membre de la communauté Anne Carême, participant du congrès Mission et rédacteur en chef pour l'hebdomadaire Famille Chrétienne. Et avec nous en plateau, Antoine Renaud. Vous êtes prêtre du diocèse de Pamiers et missionnaire itinérant. On découvrira ça. Bonjour.
Bonjour.
Alors, Monseigneur Michel Dubost, on va commencer avec vous, avec ces phrases, on va dire, made in Pape François, j'ai presque envie de dire, ces formules dont il a le souci et l'art. Ce mois missionnaire extraordinaire courra donc tout au long du mois d'octobre. C'est une nouveauté dans l'Église, et il a confié cette mission donc aux œuvres pontificales missionnaires. Il y a un anniversaire, et j'aimerais qu'on commence par ça. C'est le centenaire de la promulgation d'un texte au titre compliqué que je vais vous laisser prononcer, promulgué par un... Pardon ?
Maximum Illud.
Voilà, c'est le pape Benoît XV en 1919 qui a promulgué ce texte. Rappelez-nous quel était l'esprit de ce texte et pourquoi le pape François a voulu choisir particulièrement cet anniversaire.
Nous sommes juste après la guerre de 1914-18. Et dans beaucoup d'endroits, j'en cite qu'un, le Togo, mais par exemple, eh bien, les missionnaires allemands ont été chassés parce qu'ils étaient allemands. Et le pape veut rappeler dans cette encyclique deux choses, dans ce texte, deux choses. La première, c'est que on n'est pas là pour annoncer son pays, mais le Christ. Et donc, il faut que la mission soit indépendante des pays. Et la deuxième, c'est qu'il faut que les églises locales soient comme toutes les autres églises, avec des évêques locaux. Et c'est à partir de 1919, il n'y avait pas encore d'évêques autochtones dans tous les pays qu'on appelait les pays de mission. Au concile, 50 ans plus tard, eh bien, la moitié des évêques venaient des missions. Donc c'est le succès de cette encyclique qui nous rappelle au fond que l'Église est universelle et qu'elle doit être partout chez elle.
Alors on sortait donc d'un terrible conflit mondial. Le pape Benoît XV avait dit à son sujet la Première Guerre mondiale, donc c'était un massacre inutile. Et j'ai lu aussi que c'était l'occasion, donc cette lettre, que soit purifiée toute collusion avec la colonisation et qu'on se tienne loin des visées nationalistes et expansionnistes qui avaient causé tant de désastres. Bref, pas de confusion et un appel, on va dire, à la mission, un rappel de la mission universelle de l'Église au-delà de toutes ces tristes réalités. Alors il y a un message qui a été écrit à l'occasion donc, de la Journée mondiale des missions, qui a été écrit par le pape François et diffusé en juin dernier. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de phrases comme ça fortes. J'en ai retenu une. L'Église est en état permanent de mission. Est-ce que vous pouvez commenter cette phrase ?
Je veux dire, nous sommes ensemble, l'Église, le corps du Christ. Et le Christ, au fond... Qu'est-ce que c'est ? C'est Dieu venant en mission sur terre. Et j'allais dire que nous ne pouvons pas être du Christ si nous ne sortons pas de nous-mêmes pour rencontrer les autres, puisque c'est la fonction même du Christ, et c'est pour ça qu'il est là. Et donc, notre nature même est d'être missionnaire. On ne peut pas être du Christ et ne pas lui ressembler. Et lui ressembler, c'est d'aller sur les routes, rencontrer les gens et leur annoncer qu'ils sont aimés par Dieu.
Alors dans ce message, il y a des accents qu'on retrouve, accents du pape François. C'est-à-dire que souvent le pape François, en tout cas vu de France, où on a des problématiques autour de la mission qui sont peut-être plus compliquées qu'ailleurs, il y a à la fois une exhortation à sortir franchement, aller à la rencontre de tout le monde, à être en sortie, comme il le dit, et en même temps à bien se garder de tout prosélytisme. Vous pouvez faire écho de cette apparente contradiction?
Oui, d'abord, il faut rappeler que quand Maximum Inaud est écrit, pratiquement la moitié des missionnaires du monde sont français. Et que nous avons, nous, une tradition missionnaire extraordinaire. Et il faut se rappeler, probablement, ça a été aussi, même si c'est tout à fait différent, c'était l'époque où nous étions colonialistes. Nous avions envie de diffuser nos valeurs, nos manières d'être, et ça c'est une très bonne chose. Mais en même temps, nous avions quelquefois envie de nous imposer nous-mêmes, et ça c'est une mauvaise chose. En fait, être missionnaire, c'est être capable de se vider de soi-même, c'est ce que le Christ fait pour venir sur terre, se vider de soi-même pour être totalement accueillant les autres. On n'aime pas si on n'accueille pas. Et il me semble que le cœur du message de François, c'est toujours de dire, sortez de vous-même, non pas que votre culture soit mauvaise, non pas que vos idées soient mauvaises, mais il faut sortir de soi pour avoir de la place pour les autres.
Alors le pape François a nommé, donc mandaté les œuvres pontificales missionnaires pour animer ce mois missionnaire mondial. On peut retrouver un site internet, je le citerai tout à l'heure. Il vous a donné plusieurs axes. Favoriser la rencontre personnelle avec Jésus-Christ, le témoignage des saints, des martyrs et autres confesseurs de la foi, la formation missionnaire, la charité missionnaire. Expliquez-nous comment les OPM travaillent à articuler ces quatre axes à travers le monde ou à travers la France.
D'abord, je me permets de dire que les OPM ont été fondés par une Française qui s'appelle Pauline Jaricot, qui est en voie de béatification. Le pape a demandé que le 1er octobre, les reliques de Pauline Jaricot soient présentes à Rome avec celles de François Xavier et de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. François Xavier et Sainte Thérèse sont respectivement patrons des missions. Et je pense que Pauline est d'une certaine manière une laïque qui est patronne des missions. Donc c'est notre source d'inspiration, c'est ces trois personnes, et évidemment un peu plus Pauline Jaricot, puisque c'est elle la fondatrice des OPM. Elle est fondatrice des OPM avec au fond deux caractéristiques très importantes. La première, c'est une femme qui a su susciter la prière, et une prière engagée, puisque chaque fois elle a organiser des chapelets où elle demandait à chaque fois qu'on récitait le chapelet de donner un sou pour les missions. Donc vous voyez, c'était à la fois très spirituel et très matériel. Et la deuxième, c'est que deuxième axe de cette femme, c'est que ça a été une femme qui a été, alors qu'elle était d'un milieu moyen et plutôt riche, elle a été donnée aux pauvres et on peut dire qu'elle s'est endettée pour eux. On pourrait dire qu'elle est à la fois patronne des missions, mais aussi patronne des surendettés, puisqu'elle est morte dans la dette et la gêne, allant à la soupe populaire parce qu'elle n'avait plus de quoi manger.
Alors cette introduction faite, les quatre axes, Monseigneur, donc rencontre personnelle avec Jésus, témoignage, formation missionnaire, charité missionnaire, comment faites-vous pour articuler ça et proposer ça entre autres en France ?
Nous avons essayé d'une part de rappeler l'importance de ceux qui, pour les missionnaires, d'être du Christ. C'est, nous sommes à l'image du Christ. Paul demande que le Christ soit formé en nous, et donc ce que nous faisons, si nous voulons être missionnaires, c'est qu'il faut que le Christ soit missionnaire en nous. Et nous avons pris un certain nombre de témoignages de saints, où nous avons proposé à toutes les paroisses de France 5 affiches pour rappeler 5 saints, donc les trois fondateurs des missions, François Xavier, Thérèse et Pauline, et en même temps Saint Irénée, parce que ça nous rappelle que nous avons été missionnés, que nous ne sommes pas chrétiens d'origine, nous sommes des chrétiens missionnés, et puis Madame Delbrel, parce qu'elle a été une assistante sociale qui a vécu la mission dans le monde moderne, dans la banlieue parisienne à Ivry. Et puis, donc, nous avons centré beaucoup de choses sur la réflexion sur le baptême. Le thème que le pape a donné, c'est baptiser et envoyer. Beaucoup de gens ont vu des baptêmes d'enfants, mais n'ont pas réalisé toute la richesse du baptême, qui est surtout vrai chez les adultes. Et donc, pendant tout le mois d'octobre, nous aurons sur notre site détaillé jour par jour 31 étapes du baptême et avec des témoignages de néophytes. Et puis nous avons fait circuler les reliques de Thérèse et de François Xavier à travers la France. Nous avons, etc., je veux dire que je ne vais pas tout détailler, mais l'articulation, c'est la prière. Et je veux dire, Pauline nous demande que cette prière passe par Marie et nous le ferons. Très volontiers.
Alors, il y a un site internet pour ce mois missionnaire. Il est surtout, enfin à l'échelle du monde, surtout en anglais et en espagnol. On peut quand même le donner, www.octobre2019.va. Je le redonnerai. Monseigneur Dubosc, j'aimerais à propos de la mission, compte tenu de votre ancienneté dans l'épiscopat, vous poser une question un peu franche. On a l'impression qu'il y a, de même que le pape François invite à la fois à sortir et en même temps à ne pas être prosélyte, qu'il y a un peu deux tendances dans l'Église à propos de la mission qui ont du mal à se réconcilier. Il y a ceux qui disent que dans une société qui n'est plus chrétienne et sécularisée, il faut d'abord favoriser une annonce explicite, avoir le courage d'annoncer, de proclamer le kérigme, d'aller la rencontre des gens, de sortir dans la rue, etc. etc. Et puis il y en a d'autres qui freinent des cas de fer en rappelant que l'important est d'être compagnon, d'être ami, de prendre le temps et de ne pas faire ça avec indélicatesse. Est-on toujours encore dans ces tensions irréconciliables ou est-ce que le directeur des œuvres pontificales missionnaires que vous êtes voit à l'horizon une possible unification de ces deux tendances ?
Mais il est probable que si nous voulons être missionnaires, la première personne à convertir, c'est nous-mêmes. Et j'allais dire que le dialogue avec quelqu'un qui pense différemment de moi, mais qui a été aussi créé par Dieu et qui est aussi capable de recevoir l'Esprit Saint, le dialogue devrait pour moi m'aider à la lumière du Christ à s'approcher encore plus de Dieu. Et la rencontre de l'autre avec un petit A, l'autre, est toujours un appel à rencontrer l'autre avec un grand A. Alors, il y a des gens qui voudraient absolument qu'on nous soyons comme quand nous croyons que tous les gens qui n'étaient pas chrétiens étaient condamnés. Ça, nous ne pouvons plus penser ça. C'était depuis, du reste, pratiquement la découverte de l'Amérique, on s'est découvert que les gens n'étaient pas forcément fautifs de ne pas connaître le Christ. Donc là, nous ne pouvons plus penser ça. Nous devons penser que l'autre est aussi habité par l'Esprit, qu'il faut l'écouter. Mais nous ne pouvons pas être des gens qui nous taisons, parce que quand on a découvert que l'amour du Christ, eh bien, on a découvert quelqu'un qui nous permet d'être nous-mêmes et invite l'autre à être lui-même. Et on ne peut pas ne pas dire cet amour.
Alors, faut-il aller jusqu'à aller dans la rue, aller faire du porte-à-porte, ou comme on verra plus tard avec le Père Antoine, d'aller de village en village aussi, Monseigneur Dubosc. Êtes-vous sensible à cela ?
Aller de village en village, de porte-à-porte, c'est une manière de faire. Ce qui est certain, c'est que le Christ a habité parmi nous. Le mot qui est très important dans l'évangile de Jean, c'est demeurer. Alors, en fait, le mot qui demeure derrière demeurer, c'est planter sa tente, circuler avec. Alors, bien sûr, quand on est dans une ville, on circule avec les gens de la ville, mais c'est très important de prendre son temps. Et dans la mission, le silence avec, la main tendue sans rien dire parce qu'il y a quelqu'un qui souffre, sont aussi des moments très importants.
Dernière question, Monseigneur Dubosc. Donc, on parlera du congrès mission après que vous nous quittiez, après une première pause musicale. Les œuvres pontificales missionnaires sont maintenant partenaires de ce grand congrès mission, grand rendez-vous, on va dire, des gens qui sont sensibles à la mission en France. Pourquoi les œuvres pontificales missionnaires ont rejoint, on va dire, ce courant ou ce fleuve ?
Parce que il me semble que dans l'Église, tous ceux qui concourent à la mission doivent être encouragés, qu'ils soient d'une manière ou d'une autre, m'importe peu. Je veux dire que vous savez, vous pouvez être dans l'évangile, pour vous l'évangile de Jean, vous l'évangile de Marc, de Matthieu ou de Luc, c'est assez différent, les conceptions sont différentes, mais ce qui est important, c'est que malgré nos différences, nous sommes habités par le même esprit et que c'est ça dont il faut témoigner.
Eh ben merci Monseigneur Dubost, on va faire une première pause musicale pour ceux qui nous quitteraient maintenant. Je rappelle le site internet pour ce mois missionnaire mondial, mois extraordinaire de la mission proclamée par le pape François, www.octobre2019.va.
Plus jamais seul, plus jamais vivre au loin de toi, plus jamais seul, waouh, waouh, waouh. Automne sévère, mon univers s'écroule comme une simple feuille à terre. L'hiver prend place, mon pouls se glace sous des flocons, lourds de confusion. Vivre ou mourir, il faut choisir. Quoi qu'il arrive, laisse-moi te dire, plus jamais seul, plus jamais vivre loin de toi, plus jamais seul, wow, wow, wow. Nouveau printemps, mon âme reprend un second souffle, un nouvel l'été, il faut rêver, la tête dans le ciel bien étoilé. Enfin la vie, elle me sourit, j'ai bien saisi que je ne serai plus jamais seul, plus jamais loin de toi, plus jamais seul, wow, wow, wow. Plus jamais seul, plus jamais vivre loin de toi, plus jamais seul, wow, wow, wow. Plus jamais seul, plus jamais vivre loin de toi, plus jamais seul. Jamais vivre sans toi, plus jamais sans toi, jamais sans toi, jamais, plus jamais sans toi. Jamais seul, plus jamais vivre loin de toi, plus jamais seul, wow, wow, wow. Plus jamais seul, plus jamais vivre loin de toi, plus jamais seul, plus jamais vivre sans toi.
Moi, missionnaire, le pape François donne le cap. C'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Pour ceux qui nous prendraient en cours de route, je vous rappelle, autour du plateau, Monseigneur Dubost, directeur des œuvres pontificales missionnaires, qui était avec nous, et avec vous aussi en début d'émission. Samuel Pruvot, membre de la communauté Ein Carême et du Congrès Mission, par ailleurs rédacteur en chef Famille Chrétienne, qui nous a rejoint. Bonjour. Voilà, et Antoine Renaud, prêtre du diocèse de Pamiers, qui est missionnaire itinérant dans ce diocèse. On y reviendra. Je ne vous ai pas donné beaucoup la parole, Antoine, vous étiez discret en début d'émission, mais on veillera à vous la donner davantage. Alors Samuel Pruvot, nous avez rejoint pour nous parler du Congrès Mission. J'avais préparé un bel extrait du magnifique teasing du Congrès Mission, mais on s'est emmêlé les pinceaux avec l'équipe, donc on ne pourra pas l'entendre. Le Congrès Mission Je vais le présenter brièvement et puis je vais vous laisser compléter. Après, j'aurai plein de questions autour. C'est un grand rendez-vous de tout, on va dire, tous les fadas que compte la France qui ont rencontré le Christ et qui veulent le faire connaître et l'aimer. Vous étiez trois au départ, si j'ai bien compris, les cours Alpha, une carême et le mouvement Annuncio. Et maintenant, beaucoup de monde vous emboîte le pas, entre autres les œuvres pontificales missionnaires. Racontez-nous cette aventure.
Alors effectivement, c'est une aventure collective au départ. Alors c'est l'idée d'un garçon assez créatif, par ailleurs architecte, ça va peut-être ensemble, qui s'appelle Raphaël Cornu-Ténard. Et puis au départ, c'est vraiment une aventure entre amis, donc c'est une aventure très simple. Nous ne sommes pas venus avec des entreprises dont nous aurions la possession pour faire une joint venture. C'est juste par amitié, partageant ce désir de faire connaître le Christ, je veux dire par tous les moyens, enfin les moyens bien sûr légaux, tout simplement nous nous sommes retrouvés dans ce désir de faire connaître le Christ très largement, au-delà de nos humbles expériences, qui étaient très belles, hein, Carême, Annuncio, Cours Alpha, fantastique expérience, et l'idée un peu naïve, mais qui finalement se révèle presque vraie aujourd'hui, l'idée naïve que toute l'Église, y compris évidemment dans le diocèse de Pamiers, y compris à Toulouse, dans cette ville rose, y compris à Dunkerque, et pourquoi pas où je suis dans Seine-Saint-Denis, qui n'est pas un endroit où la pratique religieuse catholique est exubérante, et bien dans tous les endroits de la France, le Christ puisse être annoncé, reconnu, goûté, et que ce salut puisse se répandre partout. Et donc nous avons, et surtout Raphaël a lancé l'idée de ce congrès, comme vous disiez, de réunir tous les fadas ou de les mettre déjà tous en réseau, parce que quelques étincelles dispersées dans la nuit, ça fait pas un feu d'artifice. En revanche, si une fois par an on les rassemble toutes ces étincelles, ça commence à faire un feu qui réchauffe et qui éclaire.
Alors le teasing, je vais essayer quand même d'en faire une petite publicité. Ce qu'on voit dans les images du teasing, c'est un peu un teasing, on va dire, à la mode évangélique, qui sont très doués pour, on va dire, pour être assez cash dans leur communication. On voit des femmes, on voit des gilets jaunes, on voit des drames divers et variés qui concernent la France ou le monde. Et puis en arrière-fond, on voit le visage du Christ qui se dessine, alors qui est celui d'un acteur, évidemment. Hein. Le Christ, pour vous, à vous lire ou à voir ce teasing, c'est vraiment la réponse à tout, jusque même à la crise des gilets jaunes. Alors expliquez-nous.
Alors, c'est pas la réponse à tout au sens, vous savez, des distributeurs automatiques où on choisit son produit en fonction de son besoin, de son désir ou de son appétit. Mais c'est une réponse, en tout cas, profonde à toutes les détresses existentielles et en tout cas tous les désirs les plus profonds et les plus nobles que nous portons. Et peut-être que le désir le plus noble que tous les auditeurs portent au moment où je vous parle, qu'ils soient chrétiens évidemment et peut-être pas encore chrétiens, c'est ce désir de bonheur, de vie, que nous chrétiens nous appelons vie éternelle. Et ce désir, en fait, les gilets jaunes le portent, les femmes le portent, alors même si elles sont nues, ça nous semble un peu curieux, mais au final, leur révolte n'aurait aucun sens si elles ne cherchaient pas un mieux-être. Et nous savons que cette vie de Dieu, elle est venue jusqu'à nous. C'est vrai que nous en sommes incapables, nous en sommes indignes, mais n'empêche que ce Dieu, ce Jésus-Christ a fait tout ce chemin jusqu'à nous pour nous donner le trésor de sa vie divine. Et je reviens sur ce leitmotiv, il est vraiment impératif de le faire connaître à tous, à toutes les générations, dans tous les secteurs de la société. Et imaginez un seul instant, alors ça c'est le journaliste à famille chrétienne qui vous parle, nous avons la chance d'avoir un catholicisme en France qui est souvent, pas toujours, mais souvent porté par des élites qui ont la chance d'avoir non seulement des revenus qui sont pas toujours mauvais, mais surtout une culture. Ils ont reçu une culture, une éducation. Et qu'est-ce que cela donnerait si tous ces trésors, nous les gardions pour nous dans une sorte de coffre-fort et nous dirions à tous nos contemporains, pas touche, c'est notre trésor, c'est le catholicisme, et seule une minorité d'élus seront sauvés. Ça serait bien sûr, ça n'existe pas évidemment, je caricature, mais en tout cas si jamais nous attrapions ce virus des initiés et des élitistes, eh bien en fait, nous allons tout simplement, je suis désolé du terme, mais nous allons crever dans notre caverne d'Ali Baba.
Samuel Prévost, vous êtes par ailleurs l'auteur d'un certain nombre d'ouvrages qui parlent de la mission. Vous relatez votre expérience missionnaire. Est-ce que vous pourriez, avant de présenter un petit peu plus le congrès mission, nous sortir de votre chapeau une expérience missionnaire, on va dire, qui serait labellisable par le congrès mission et qui dit ce à quoi invite ce grand congrès mission?
Alors, je vais vous prendre un exemple qui me vient à l'idée, qui est assez récent parce qu'il remonte à cet été. C'était dans la belle ville de Biarritz, juste avant le G7. Et nous étions invités, non seulement par l'évêque du lieu, mais aussi par la communauté, enfin, par la paroisse, et qui est confiée à la communauté Saint-Martin. Donc, il y avait un jeune prêtre qui ressemblait d'ailleurs à un acteur de cinéma, mais c'était pas un acteur, c'était un vrai prêtre, avec une soutane, une bonne tête, peut-être des lunettes de soleil aussi. Et je tombe sur un couple marié, je précise hétérosexuel, parce que des fois, il faut préciser les choses peut-être les plus évidentes. Et puis, finalement, la dame, très gentille, mais s'énerve un peu en disant « je comprends pas du tout pourquoi les prêtres sont célibataires et pourquoi on veut absolument les castrer ». Du coup, j'essaye deux, trois réponses maladroites, n'étant évidemment pas prêtre moi-même, mais marié. Et finalement, j'appelle à la rescousse ce jeune abbé de la communauté Saint-Martin, et qui, au lieu de faire une défense en règle du sacerdoce, mais qui aurait été peut-être trop longue et trop pénible à entendre pour ce couple, qui manifestement avait une tradition chrétienne, il leur dit tout de go, en fait, votre problème, c'est que vous voulez vous aimer, que vous en êtes incapable, avouez-le, eh bien moi je suis devenu prêtre au service de votre amour. Et c'est parce que vous avez envie de vous aimer, que vous n'en êtes pas complètement capable, que moi j'ai donné ma vie à Dieu dans le célibat. Et si jamais c'est pas le cas, mon sacerdoce n'a aucun sens. La dame est passée du rire aux pleurs. Elle a donné un grand coup de coude à son mari en disant « Tu vois comme c'est beau les prêtres, le sacerdoce, et c'est génial, il faudrait qu'on revienne à l'église. » Et j'ai trouvé cette discussion qui a dû durer 10 minutes, un quart d'heure, hallucinante, parce que cette dame est venue avec ses bonnes intentions, sa culture chrétienne et aussi ses incompréhensions. Et après, cet abbé, avec 2-3 paroles simples, a su rallumer en elle une flamme qu'elle avait bien sûr reçue, qui était la flamme de son baptême. Et j'ai eu l'impression qu'elle est repartie beaucoup plus confiante dans l'Église, dans le sacerdoce, mais surtout beaucoup plus confiante en Jésus-Christ. Et ça a duré un quart d'heure et ce n'était pas de la magie.
Samuel Prévost, ce congrès, on peut aller donc sur le site, ça s'appelle congrèsmission.com tout simplement. Il se tient donc prochainement fin septembre, je vous laisserai rappeler les dates. Ce qu'on y trouve, c'est que on a l'impression que c'est comme un grand forum où on peut venir, en dehors des temps de prière qui sont proposés, un peu picorer ce qu'on veut en fonction de ses besoins et de son origine. J'ai relevé quelques titres, la conversion pastorale missionnaire, il y a un atelier sur ce thème, comment évangéliser dans le monde agricole, autre thème, évangéliser en faisant la fête avec la caravane de l'espoir, ai-je vu, guérison, comment, entre guillemets, les vivre et les manifester, qu'est-ce que c'est que ce congrès mission et comment s'organise-t-il?
Alors, c'est effectivement assez bien vu, on a pensé la chose un peu comme un salon de l'agriculture, sauf que c'est un salon de la mission, et donc je ne sais pas si vous avez jamais eu l'occasion d'aller au salon de l'agriculture, d'ailleurs c'est quelque chose qui est très prisé, très populaire parmi les Français, le salon de l'agriculture, on se balade dans plein de stands qui viennent de toutes nos régions, et donc je suis persuadé qu'il y en a de Toulouse et de Pamiers, et d'ailleurs, de régions parisiennes peut-être beaucoup moins, on se balade dans tous ces ateliers et on goûte. On goûte le fromage, on goûte du vin, on goûte de multiples produits du terroir. Ben, le congrès mission, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire mettre ensemble, mettre en amitié, mettre en réseau toutes ces initiatives très belles et souvent d'ailleurs assez modestes, hein, dispersées dans toutes nos paroisses, nos diocèses, nos communautés, et montrer en fait tout ce que l'Esprit-Saint, aujourd'hui en 2019, est en train de susciter partout en France, bien sûr dans le monde entier, mais nous, par modestie, c'est déjà énorme, partout en France, ce que l'Esprit suscite. Du coup, nous, on ne peut pas interdire à l'Esprit-Saint d'agir dans un territoire ou un domaine. On ne peut pas dire à l'Esprit-Saint, « Cher Esprit-Saint, ne perds pas ton temps avec le rural profond, il n'y a plus de prêtres, de toute façon, il n'y a plus de fidèles, il n'y a plus que quelques néo-chamans qui vont faire brûler des drogues aphrodisiaques. Non, l'Esprit-Saint agit dans tous les domaines, ceux que vous avez cités, mais c'est hallucinant. Il y a le sport de haute compétition, il y a l'école maternelle, il y a toutes les formes d'addiction. En fait, l'Esprit-Saint agit partout, et nous sommes juste des humbles. Vous savez, il paraît que les premiers hommes de la planète étaient des chasseurs-cueilleurs. Nous sommes juste, nous, Congrès Mission, on cueille ces initiatives
et on les
partage. Et on les offre sur un plateau, alors c'est pas un plateau d'argent, mais à tous les visiteurs.
Alors de fait, les entrées, ruralité, espace public, famille, société, culture, travail, 0-18 ans, j'avais pas vu sportif de haut niveau. Antoine Renaud, vous y êtes allé juste plusieurs fois.
Oui.
Dites-nous, partagez-nous en quelques mots, pour ceux qui ne connaissent pas cette réalité, ce que ça vous a fait, vous, prêtre du diocèse de Pamiers, de monter à la capitale et de découvrir ce salon de l'agriculture de la mission.
C'est-à-dire que parfois, dans les initiatives missionnaires, on peut se sentir, en Ariège, un peu seul. C'est-à-dire dans le fait de faire des choses, des initiatives nouvelles, un petit peu, d'aller chercher des nouveautés. Et aller là-bas, pour moi, ça a été la découverte de tout un bouquet extraordinaire d'initiatives partout sur le territoire français. Et
donc moi, ça a été
très encourageant.
Ouais,
très encourageant. On m'a demandé l'an dernier d'animer un petit atelier à deux reprises dans l'après-midi. Et ça a été aussi un beau moment de rencontre. D'ailleurs, j'ai recroisé par providence dans l'année, notamment au Festival Annuncio cette année, des personnes qui étaient venues à cet atelier.
Alors, votre atelier, vous présentiez, on en reparlera, donc votre caravane missionnaire, puisque vous allez donc de village en village avec une caravane, presque toutes les semaines, à la rencontre des habitants dans les villages où il n'y a plus de prêtres qui parfois sont passés depuis bien longtemps. Samuel Pruvot, dans le temps qui nous reste, j'ai titillé un peu Monseigneur Dubosc tout à l'heure, en tout bien tout honneur, donc je vais faire la même chose avec vous. Ne craignez-vous pas d'être comme un rouleau compresseur aussi qui veut mettre en ordre de marche toute l'Église de France derrière une forme de mission qui est la proposition explicite de la foi, c'est-à-dire la mission directe, comme on dit, et d'être un peu prosélyte?
Alors, en fait, c'est vrai que l'image du rouleau compresseur, je suis désolé, elle est absolument pas, adaptée à ce que nous sommes. J'ai beaucoup aimé, je remercie le Père Antoine d'avoir donné, en fait, son témoignage sur cette visite qu'il a pu effectuer. Bien sûr que c'est exubérant parce qu'il y a beaucoup d'initiatives. Je rappelle, il y a quand même 150 ateliers. Il n'y en a pas plus parce qu'il n'y a pas plus de salles, hein, sinon on en aurait 250. Hein. Mais ces ateliers, ils sont minuscules, vous voyez, ça correspond bien aux graines de sénévé dont parle l'Évangile. Il n'y a pas des podiums avec 250 personnes, avec des pom-pom girls qui disent « Vive Jésus » et puis des fumigènes. C'est des initiatives très modestes, et je crois que la plupart d'entre elles, et l'Église le discerne, hein, viennent de l'Esprit-Saint. Donc ce sont des cadeaux de l'Esprit qui suscitent dans l'âme le cœur des fidèles. Et puis un modèle unique, c'est justement ce que nous récusons. Dieu est unique en trois personnes, mais les modes de témoignage, d'attestation de la foi sont par définition multiples. Quand on regarde l'histoire de l'Église sur 2000 ans, il y a eu 1000 façons de témoigner du salut en Jésus-Christ. Et c'est ce que nous vivons, c'est qu'il y a 1000 manières, en chantant, certains témoignent carrément en se taisant, en mettant des panneaux, enfin tout est possible pour témoigner de Jésus-Christ. La seule chose qui nous semble nécessaire, et ça je pense pas que ça soit du prosélytisme, c'est que de façon articulée, alphabétisée et compréhensible, on puisse témoigner que Jésus-Christ nous a fait du bien, et un bien qui dépasse tous les biens de ce monde. Ça dépasse les produits qu'on trouve en pharmacie, ça dépasse les solutions politiques diverses et variées de droite et de gauche. Et ça, en revanche, c'est vrai que c'est le seul point qui nous semble, où on pourrait peut-être paraître intransigeant, c'est qu'on ne peut pas apporter le salut à nos frères contre leur gré. Parce que ça serait quoi un salut automatique, une rosée qui tomberait du ciel, qui nous tomberait du ciel? Alors, ceux qui n'en veulent pas pourraient se mettre un chapeau sur la tête pour pas avoir cette rosée. N'empêche que le salut suppose un acte libre d'adhésion. Et donc, comme dit Saint Paul, si on ne parle pas du nom explicite de Jésus, comment est-ce possible que des frères puissent adhérer à cet amour de Jésus?
Samuel Pruvot, pour finir, vous êtes donc par ailleurs journaliste à Famille Chrétienne, donc rédacteur en chef dans ce journal, et depuis quelques années, vu de ce poste, en plus donc de votre participation au Congrès Mission, de vos expériences personnelles de la mission, est-ce que vous diriez que l'Église de France aujourd'hui s'autorise en fait à devenir plus missionnaire? N'est-ce pas difficile à une époque justement où elle est par ailleurs, elle n'a pas toujours montré l'exemple, où elle est très critiquée? C'était un des sujets, je crois, du Congrès Mission de l'année dernière. L'annonce, oui, et en même temps, un moment où souvent on n'a qu'une envie, c'est de se taire ou de disparaître.
Oui, exactement, c'était un sujet l'année dernière et c'est, je crois, encore un sujet de table ronde, hein, parce que je crois qu'il doit y avoir 25 tables rondes, dont une qui s'intitule « Peut-on témoigner avec le maillot de la honte ?» Et la honte, c'est le sujet terrible dont vous venez de parler. Moi, mon expérience journalistique, c'est vrai que 25 ans de journalisme dans l'information religieuse, à la fin, enfin, j'espère, on en tire quelques leçons. Moi, ce que je perçois, me semble-t-il, c'est que plus l'Église est bousculée, plus elle est humiliée, plus elle est pauvre, et paradoxalement, plus elle a de capacité à devenir, à faire entendre tous ces témoins qui sont, un certain nombre d'entre eux en tout cas, sont extrêmement crédibles, malgré, c'est vrai, leur grande faiblesse, et puis tout simplement leur faiblesse numérique. Il faut quand même imaginer, c'est ce qu'on rappelle dans notre manifeste avec Raphaël Cornu-Ténard, aujourd'hui, les sociologues nous disent que nous sommes passés sous la barre des 5% de messalisants. Les messalisants, ce n'est pas des lézards qui vivent dans les roches à panier. Les messalisants, c'est ceux qui vont à la messe le dimanche. Donc comment oser prétendre que nous sommes encore un pays chrétien? Nous sommes une toute petite minorité, un grain de sable ou alors un grain de poivre. Eh bien, malgré ça, on voit que cette faiblesse donne de nouvelles opportunités. Je vous donne juste un seul exemple qui, moi, me bouleverse, que je trouve très beau. Quand je me suis converti à l'Église à Jésus-Christ, dans l'Église catholique, c'était il y a 25-30 ans, il y avait des tradis, les pas tradis, les vieux, les jeunes, la gauche, la droite. En tout cas, dans les personnes que nous interrogeons, qui ont moins de 30 ans et moins de 25 ans, ces vieux clivages ne veulent absolument rien dire. La question, pour les catholiques de moins de 25 ans, c'est pas de savoir si on est gauche ou à droite, si on est rural ou si on est urbain, si on aime le grégorien ou la louange charismatique. La vraie question, c'est de savoir, est-ce qu'on est vraiment attaché à Jésus-Christ vivant dans son Église catholique? Du coup, ces jeunes passent dans plein d'endroits où jadis, moi, je ne pouvais pas passer, parce que si on était pour le PSG, on ne pouvait pas être pour Marseille, pour l'OM. Eh bien, aujourd'hui, je trouve qu'il y a de nouvelles opportunités qui, paradoxalement, sont contemporaines de notre extrême faiblesse. Et je termine en disant, forcément le monde ne le voit pas, en disant, les cathos sont humiliés, ratatinés, ils sont à terre et c'est leur dernière génération, mais ces observateurs ne savent pas, parce qu'ils ne sont pas encore venus au Congrès Mission, tout ce que l'esprit suscite et tous les murs de Berlin qu'il est en train de faire tomber entre nous.
Eh ben merci beaucoup Samuel Pruvot.
Merci à vous.
Vous avez donc, entre autres, vous en avez dit deux mots, donc je le développe un tout petit peu. Il y a un manifeste pour la mission qui a été publié l'année dernière à l'occasion du Congrès Mission. Je citerai juste trois des 10 thèses de ce manifeste. Évangéliser, priorité numéro 1. Vous reprenez là presque mot à mot ce que dit le pape. Le droit pour tous de connaître Dieu. Être unis pour l'annonce. Le Congrès Mission, c'est donc les 27, 28 et 29 septembre prochains à Paris. Il y a encore des places dans le train, on imagine. Un site internet, congrèsmission.com. Merci beaucoup.
Oui, se dépêcher pour s'inscrire, parce que là, il y a vraiment un rush.
Ça craque.
C'est fantastique. Mais il ne faut pas qu'à Pamiers, on puisse dire il n'y a plus de place. Ça serait trop terrible.
Merci beaucoup, Samuel Prémont. On va faire une deuxième pause et puis on va enfin donner un peu plus la parole au père Antoine Renaud, qui, s'il est discret, n'en est pas moins étonnant par la mission qui lui a été confiée. Et il va nous raconter ça, sa mission en caravane de prêtre itinérant pour le diocèse de Pamiers.
On a tous mis une fois le pied où il faut pas, et parfois misé sur un galasson et perdu des millions. On
On s'est tous cassé le nez sur une porte fermée, sans rien piger. On y croyait dur comme fer, mais faut faire machine arrière. Fatigué, dégoûté, cabossé, mais sur la pointe des pieds. Tu vois, c'est comme les saisons. Un jour vient la moisson. On sème et le grain au sol prend racine. On se dit, à quoi bon répandre des illusions? Et un matin, l'éclosion se dessine. Poids du sac, la fatigue et le trac, et sans peine, on jette une autre poignée de graines. On a tous dans nos tiroirs planqué un peu d'espoir, comme un gosse. Le rêve secret d'être acteur. Un peu d'amour gâché par notre amour propre. Le besoin d'être utile, être passeur d'évangile, en nous l'essence, la semence, l'espérance, c'est plus que tu ne penses. Tu vois, c'est comme les saisons. Un jour vient la moisson. On sème et le grain au sol prend racine. On se dit, à quoi bon répandre des illusions? Et un matin, l'éclosion se dessine. On oublie le poids du sac, la fatigue et le trac, et sans peine on jette une autre poignée de graines. Être révolutionnaire en jetant des graines en l'air. Tu vois, c'est comme les saisons.
Un jour vient la moisson.
Un jour vient la moisson.
On sème et le grain,
sème, et le grain au sol prend racine.
Radio Présence à Moissac 93.3. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Moi, missionnaire, le pape François donne le cap, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, à l'occasion donc du mois extraordinaire de la mission déclarée par le pape François, qui va courir dans toute l'Église universelle tout au long du mois d'octobre. On prend un petit peu les devants, et avant donc le congrès mission dont on parlait avant la pause autour du plateau. Pour ceux qui nous rejoindraient, nous étions avec Monseigneur Dubost, qui est directeur des œuvres pontificales missionnaires, Samuel Pruvot, membre donc de l'équipe, on va dire, d'organisation du congrès mission, et Antoine Renaud, qui est prêtre du diocèse de Pamiers et missionnaire itinérant. Alors c'est vrai qu'on a donné beaucoup la parole à nos deux invités. Quand on les a par téléphone, on a tendance à en profiter. On avait fait une émission avec vous, je crois, il y a 2 ou 3 ans, Père Antoine Renaud. Donc vous avez un ministère bien particulier. Je vais vous laisser le présenter. Vos évêques, même si il manque un petit peu de prêtres de moins de 60 ans dans leur troupe, ont fait un choix singulier. Racontez-nous.
Oui, un évêque et puis l'autre qui a été nommé ensuite m'ont confirmé dans une mission itinérante en Ariège. Donc moi, je suis prêtre du diocèse de Pamiers depuis, j'étais ordonné en 2006. Et depuis 2012, je vis une mission itinérante au début à pied. Et puis depuis 2015, l'année de la miséricorde, 2015-16, avec une caravane que l'on m'a offert. Et donc, je vais de village en village pour rencontrer les gens dans des endroits un peu plus reculés, qui n'ont pas forcément habituellement la visite d'un prêtre ou d'une équipe de laïcs missionnaires. Et donc l'idée, c'est d'ouvrir les églises, de rencontrer les gens chez eux quand c'est possible. La caravane étant devenant à ce moment-là un point de rendez-vous, un lieu de communication et aussi bien souvent mon lieu de logement pour la nuit.
Voilà. Un objet de curiosité aussi, parce que dans certains villages, si j'ai bien compris, parfois les gens passent un coup de fil à l'évêché ou à la paroisse pour savoir si vous êtes un vrai ou un faux prêtre, non ?
Oui, c'est arrivé, oui. Alors, à côté de la caravane, il y a un petit tableau qui dit qui je suis, un numéro de téléphone, le mien, et puis donc cette précision, effectivement, que c'est une initiative du diocèse de Pamiers.
Donc c'est une mission singulière. Il faut dire que pour le diocèse de Pamiers, vous êtes maintenant presque deux, puisqu'il y a un autre prêtre qui a été en partie détaché pour consacrer du temps à cette forme de mission. Donc il y a la rencontre directe et gratuite. On y reviendra sur le mot gratuite. Je voulais juste que vous disiez un mot sur votre choix et celui de votre évêque. Vous avez eu une espèce un peu de crise du jeune prêtre où vous avez fait face en fait à des impasses qui vous ont conduit à ce nouveau ministère. Racontez-nous.
Oui, effectivement, j'ai été face à une crise existentielle à un moment, une crise vocationnelle, une forme de déception aussi quand des gens m'ont dit « on n'a pas voulu vous déranger quand telle personne est tombée malade dans notre famille, on aurait pu vous faire venir pour la rencontrer, pour prier avec elle, mais on a préféré pas vous le dire. » Et là, parce que vous êtes très occupé. Et là, je me suis dit « il y a quelque chose qui ne va vraiment pas, puisque ma vocation de prêtre, elle est d'abord d'être dans cette rencontre des plus démunis, des plus pauvres et voilà, dans ces rencontres-là. » Et donc, je me suis dit, il faut que je me trouve une façon de vivre qui me permette d'avoir du temps dans la relation et de dire aux gens, on peut se rencontrer, il faut que j'apprenne moi à être plus à l'écoute et que je me donne des moyens aussi de témoigner par des gestes un peu prophétiques. C'est aussi ce qui s'est... Cette solution de l'itinérance a permis, même si elle donne l'image encore de courir malheureusement un peu partout, en fait, elle m'accorde à moi du temps quand je rencontre les gens. Et ceux que je viens visiter savent me renvoyer ce regard-là, de me dire merci d'avoir pris du temps pour nous.
Ouais. Est-ce que vous pouvez nous raconter une expérience récente de mission ? Vous êtes allé dans un village en Ariège et puis des rencontres que vous avez pu faire. Évidemment, vous n'êtes pas du tout obligé de nous donner le nom et l'adresse des personnes.
Bien sûr.
Mais voilà, qu'est-ce qu'on vit à l'occasion de ces missions ?
Eh bien, je vais vous donner un exemple cet été. Alors, à l'occasion des fêtes de village, nous les prêtres, nous sommes encore beaucoup invités. Hein, les villages espèrent encore la visite d'un prêtre pour la messe. Mais moi j'ai ce problème avec ces messes de fête que souvent on est un petit peu un iluberlu qui vient juste assurer la tradition, comme ils aiment dire, mais et on se retrouve uniquement avec une certaine partie de la population sur place, mais on n'arrive pas à rencontrer l'ensemble du village. Donc quand je suis appelé pour une fête de village, soit par un curé, soit par un comité des fêtes, ça arrive, eh bien je saute sur l'occasion en général. Parce que je leur dis, eh bien, vous m'avez invité, sachez que je vais venir quelques jours à l'avance avec ma caravane pour vous rencontrer. Ah ben oui, soyez le bienvenu. Donc ça me confère une certaine autorité dans un monde où finalement, aujourd'hui, il y a encore cette difficulté, cette tension entre religion et laïcité, etc. Donc là, on a demandé un prêtre dans le cadre de la fête d'ordre laïque, entre guillemets. Donc ça me donne une certaine autorité. Je suis là et bien accueilli. Et puis je sais le rendre aussi, par exemple dans cette mission-là de ce village, eh bien j'en avais profité avec quelqu'un qui était avec moi en mission, un laïc qui m'avait rejoint, eh bien nous sommes allés servir le repas de la fête par exemple, le samedi soir, ce qui nous a permis de...
Donc vous prenez du temps avec les gens, c'est pour faire quoi, ce que disait Monseigneur Dubos, vous laissez le temps des silences aussi. Hein, c'est...
Ah oui, tout à fait. Prendre le temps, c'est par exemple, effectivement, alors que les jours précédents avaient été assez intenses dans les rencontres, quand on sert un repas, c'est juste être là, donner un sourire, accueillir une petite blague par-ci, par-là que quelqu'un nous fait parce qu'il est surpris de voir un curé qui sert le repas. Mais n'empêche que moi, je suis dans cette joie de servir le peuple de Dieu qui, à table à ce moment-là, il ne sait pas forcément qu'il est le peuple de Dieu, mais moi, j'en ai la charge. Donc, je suis avec eux.
Voilà. Est-ce que ça contribue à renouveler l'image de l'Église ? Est-ce que dans le fond, c'est un peu le cœur de votre mission ? Ou est-ce que parfois, ça va plus loin ? C'est-à-dire, vous n'êtes pas seulement un jeune prêtre souriant, par ailleurs artiste, et qui est sympathique.
Toute la difficulté, elle est là, c'est que dans ce type de mission, le risque, c'est d'en rester à l'image, hein, l'image d'un prêtre qui révolutionne un petit peu la façon de faire, etc. Quoique j'invente rien de particulier. Mais là où il y a une surprise dans la vie des gens, c'est effectivement lorsque je suis accompagné, par exemple, et que une personne toute frêle à côté de moi, mais qui à la fois arrive, je pense à une rencontre dans un village, j'étais avec une petite dame qui a voulu partir en mission avec moi alors qu'elle-même traverse des difficultés dans sa vie, mais elle a la foi. Et nous nous sommes retrouvés chez une personne, hein, en porte-à-porte, et cette personne avait traversé la dépression, elle, de son côté. Et puis, c'était pas moi qu'elle voulait entendre. C'était cette chrétienne en pleine dépression et qui venait dire mais je la traverse cette difficulté avec Jésus qui est avec moi. Et pour cette personne, il y avait comme quelque chose de nouveau qui émergeait, qui venait pas de l'autorité d'un prêtre entre guillemets, mais de cette personne baptisée qui a mené son témoignage de pauvreté, tout simple. Et c'est vers elle qu'elle se tournait tout le temps pour dire expliquez-moi, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous vivez. Voilà, et j'ai trouvé, voilà un exemple, par exemple, voilà, de rencontre où il y a une surprise. C'est l'Église qui témoigne et pas simplement un prêtre. Voilà.
Est-ce que vous diriez que quand on sort des églises, qu'on va à la rencontre des gens comme ça, simplement et gratuitement, on est heureusement surpris de voir que bien des gens cherchent Dieu, ou est-ce que là c'est quelque chose dont on essaie de se convaincre pour se dire que on est peu nombreux, mais que d'autres, à d'autres ça pourrait parler au cœur aussi.
Je ferai pas de statistiques, j'en sais rien. En tout cas, moi, je crois à la providence. Et je m'aperçois que dans beaucoup des rencontres que je fais dans le cadre de ces sorties, eh bien, le Seigneur envoie celui ou celle qui a soif, qui interpelle, voilà, à travers cette présence, parce que voilà, il y a cette présence de la caravane, ma présence dans le village, je me promène, je prie mon chapelet, j'essaye de rencontrer les gens, et ça interpelle. Je peux vous donner un autre exemple encore, quelqu'un qui vient me voir en me disant cette personne vient à la messe alors qu'elle n'est pas habituée à ce langage de la messe, elle avait jamais fait de messe de sa vie à part pour un enterrement, et elle me dit je suis curieuse, voilà, de ce que vous proposez, parce que cette façon de vivre, elle me surprend. Et puis après ça, on est allé boire un café chez elle. Puis elle commence à me raconter son histoire. Je vais passer les détails, mais interpellée par la Vierge Marie dans son histoire, alors qu'elle ne se définit pas comme chrétienne du tout, cette femme-là. Et puis le dimanche, après, elle vient à la messe, et puis elle était au premier rang, toute souriante, à l'écoute, participante. Et puis, en sortant de la messe, elle trouve devant sa porte une médaille avec une face avec Notre-Dame de Lourdes et l'autre Saint-Christophe. Elle m'avait confié juste avant qu'elle aurait aimé peut-être faire une démarche, un pèlerinage pour trouver Marie. Et elle trouve ça devant chez elle, un vieux porte-clés qui avait été abandonné là. Incroyable. Elle l'a pris pour un signe. Et aujourd'hui, elle est pèlerine, elle est en marche vers Lourdes. Voilà.
Voilà, missionnaire itinérant en Ariège avec votre Eriba 1974, c'est le modèle,
c'est
donc de votre caravane que vous avez surnommé, ou qui se surnomme aussi Toinette.
Non, c'est pas moi qui l'ai. On l'a trouvé avec ce nom-là, c'était extraordinaire.
On peut retrouver d'ailleurs des articles sur votre mission, même dans le journal La Dépêche. Alors, quelques informations pour finir à propos donc de ce mois extraordinaire de la mission décrété par le pape François, ou lancé par le pape François. Le site, on va dire, monde de cette initiative, il faut que je le retrouve, voilà, qu'il me fait défaut, www.octobre2019.va, www.octobre2019.va, et pour le congrès mission, les 27, 28 et 29 septembre prochains à Paris, www.congrèsmission, tout accroché, sans accent, .com. Merci beaucoup à tous. Merci Antoine Renaud d'être venu au micro de Vivante Église.
Avec joie.
Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.